Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Charles. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de First Pitch, votre podcast MLB. On est à la veille de l'opening day. Ça y est, on y est presque. Après un mois de spring training long, ennuyeux, je sais pas, mais j'avoue que j'avais très très hâte que les choses commencent, surtout qu'on a eu l'avant-goût la semaine dernière avec les Seoul Series. Mais cette fois-ci, c'est la bonne, c'est le vrai opening day avec le logo sur le gazon, avec le petit patch, etc. Aujourd'hui, pour cet épisode, eh ben, c'est de nouveau Jérémy qui m'accompagne. Comment tu vas, Jérémy ?
Salut Charles, bonjour à tous. Bah écoute, je vais très très bien, assez enthousiasmé pour le début de cette nouvelle saison MLB qui promet, comme toujours, plein de rebondissements et plein de très très beaux matchs pour cette journée d'ouverture.
Exactement, et c'est le thème principal de ce podcast, c'est que on va parler de l'opening day en lui-même, des matchs de jeudi avec des focus sur trois et un match en bonus parce que ce sont les pitching match-up les plus incroyables. Franchement, il y a vraiment des matchs où les deux lanceurs qui seront sur le monticule, ça va envoyer du très 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 lourd. Il y a des très très belles affiches, hein. Il y en a certaines, c'est des finales de conférence avant l'heure. Il y en a même qui ont déjà été des finales de conférence d'ailleurs. Donc on va vous parler de ça, mais avant de commencer, la petite news qui est tombée pendant la nuit, ça y est, Jordan Montgomery a trouvé une équipe à la veille de l'opening day. Non, mais vous vous rendez compte, on en avait parlé avec Chris Gogneau de cette possibilité de signer jusqu'à la veille, quasiment, et même après. C'est, pour le coup, on va pas revenir dessus, c'est vraiment du grand n'importe quoi, parce que clairement, Montgomery, il est pas prêt. Mais Montgomery s'engage un an et 25 millions de dollars avec les Diamondbacks de l'Arizona. Très bon coup. Une année en option dont le montant va être calculé en fonction du nombre de départs qu'il va faire. Donc, s'il fait 10 départs cette saison, il va toucher tant jusqu'à un certain montant qui est au maximum de nouveau 25 millions de dollars pour la saison 2025. Jérémy, gros coup des Diamondbacks là sur la ligne d'arrivée.
Bah oui, effectivement. Franchement, moi, je ne les voyais pas. Je ne voyais absolument pas le prendre. On pensait plus à une dernière chance des Red Sox, hein, honnêtement, qui était un peu sur le coup. Puis là, finalement, ils ont ajouté une cartouche en plus dans leur rotation de départ, qui est déjà quand même pas mal. On en a parlé l'autre jour sur les rotations, qui rejoint Zach Gallen. Donc, moi, je pense que Montgomery sera peut-être numéro 2, on va dire, dans la rotation des partants. Parce que Zach Gallen, quand même, produit une très très belle saison et un très beau parcours jusqu'à maintenant. Donc, je pense que voilà, ils sont armés d'un très très bon partant en plus. Voilà, maintenant, il va falloir travailler. Parce que là, il est très 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 en retard. Donc, petit temps d'adaptation pour lui. Mais je pense que ça, bon, comme c'est un professionnel, il va tout de suite rentrer dans le bain.
Ouais, c'est vraiment une bonne acquisition. Vainqueur des World Series l'année dernière avec les Rangers, hein, faut quand même le souligner. J'avoue que moi aussi, ce matin, en voyant que c'était les D-backs, j'étais un petit peu surpris. Effectivement, on l'attendait ailleurs. On savait que les Yankees étaient aussi potentiellement sur le coup avec la blessure de Gerrit Cole pour venir renforcer et faire revenir, parce que Montgomery connaissait déjà la maison. Bah non, au final, ce sont les D-backs qui se renforcent. Donc, ça nous promet de nouveau une National League West. Les Giants avec Snell plus Logan Webb. Les D-backs avec deux gros lanceurs. Et en plus, les Dodgers. Non, mais là c'est du... Ouais. Là, ça devient vraiment le Far West. Ça va être le Far West, cette division. Ça va franchement être sympa. Et les Padres, bien entendu, qu'on n'oublie pas, qui ont montré qu'ils étaient capables de très bonnes choses, notamment offensivement.
Du coup, on peut dire qu'il y avait une espèce de domination de l'American League centrale. Et juste pour faire un petit aparté, là, la vapeur s'est complètement renversée sur la MLB cette année. Là, on peut dire que c'est parti de l'autre côté du pays et dans une autre ligue, en fait, finalement.
Voilà. Exactement. Exactement, exactement. Donc, ça y est, jeudi, c'est le début de la saison 2024, officiellement. L'opening day va vraiment débuter, même s'il y a eu les Seoul Series avant. Je vous avoue que après un mois de spring training, on sent que les joueurs ont aussi envie d'en découdre. Hein. Hier, je regardais Cardinals Cubs, et bon, les courses entre les bases n'étaient pas des plus, vaillantes, vraiment où on sentait qu'ils avaient envie. Voilà, on les sent, c'était un peu tranquille. On va pas se blesser avant le match d'ouverture. Donc là, ça y est, c'est parti. Ça commence à 18h10 sur les antennes des copains de Bein Sport avec un Brewers Mets en VF en plus. Donc horaire plutôt très 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 cool. On poursuit. Je vais vous faire le listing, hein, et après on va débuter avec l'analyse des match-ups vraiment des matchs qu'il faut absolument regarder. On a Yankees Astros. Vous doutez bien que celui-ci, il fait partie de ceux dont on va vous parler. On a un Angels contre les Orioles, les Braves face aux Phillies. Voilà, pareil. Les Nationals contre les Reds. Duel de division entre les Giants et les Padres qui du coup ont déjà commencé leur saison, les Cardinals face aux Dodgers, les Blue Jays face aux Rays, les Twins face aux Royals, les Tigers face aux White Sox, les Pirates face aux Marlins. Ça, c'est pour les matchs qui sont à 21h10, donc aussi des matchs à une heure relativement correcte. Les Cubs face aux Rangers, là on part à minuit et demi. Les Guardians face aux Athletics à 3h07. Les Rockies face aux D-backs à 3h10. Et enfin, les Red Sox face aux Mariners à 3h10 aussi. Des belles affiches. C'est le début. Hein. Ce sont les premières séries. Faut pas vous attendre à un baseball de fou furieux d'entrée de jeu. Hein. On l'a vu pour les Seoul Series. Il y a des erreurs qui sont commises. On sent que c'est encore la mise en route, mais Jérémy, il y a quand même 3 voire 4 matchs où d'entrée de jeu on a des très très gros match-up au niveau notamment du pitching. À commencer par un Yankees Astros à Houston qui verra s'affronter sur le monticule Nestor Cortes et Framber Valdez. Pouf, c'est déjà un premier match-up. Alors, ça aurait dû être Gerrit Cole pour les Yankees, mais on le sait tous, il est blessé. Donc, c'est Nasty Nestor qui prend la suite de Gerrit Cole. Deux équipes, d'une manière générale, qui sont parmi les prétendants au titre, qui sont parmi les prétendants dans cette American League, qui ont des ambitions cette saison, qui ont un effectif taillé pour aller très, 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 très loin. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces deux lanceurs qui s'affrontent ce soir ? Demain soir, pardon.
Mais du coup, d'un côté, oui, on a Framber Valdez, la valeur sûre, l'étoile montante, que l'on voit de saison en saison, donc de 2018 à 2023, qui n'a fait que progresser. D'un autre côté, Nestor Cortes, qui était, sous le radar, et qui a été sous les feux des projecteurs il y a deux saisons, déjà. Toi, Charles, déjà, tu me disais, regardez-le, Nestor Cortes, franchement, il vaut le coup d'être vu, et ça n'a pas loupé, hein. Il a fait une saison 2022 parce qu'en 2023 il était blessé. 2023 il était blessé, donc 2022.
Oui, il a été blessé une grande partie de la saison.
Une grande partie de la saison, voilà. Mais en 2022, tout c'était là à se dire, on a trouvé notre numéro 2. Ça va être génial, quoi. Donc là, il va revenir en forme. Et c'est ce que j'ai pu constater, et j'ai pu faire mes petites recherches, on va dire, sur ces deux lanceurs, donc qui ont commencé, on va dire, la même année, en 2018. Donc, on a, alors, d'un point de vue général, d'un point de vue, on va dire, purement trophée, Donc, un championnat pour Framber Valdez et deux fois All-Star. Et Nestor Cortes, il a été All-Star, ne l'oublions pas.
Tout voilà.
Ça, ça a été vraiment le point positif pour lui, pour sa saison. Après, on est sur des statistiques vraiment sensiblement pareilles. Bon, au niveau de l'ERA, j'ai fait compiler l'ERA de la même saison, hein, donc de 2018 à 2023. Donc 3,40 pour Valdez et 3,82 pour Nestor Cortes.
Oui.
Vous voyez, on est sensiblement pareil. Par contre, Valdez strike out beaucoup plus que Cortes, car il y a environ, pratiquement 300 strike out de différence. Hein, ce qui est énorme. Donc Valdez est une machine à strike out. Hein, faut pas... Ça, c'est sûr. Ensuite, quand vous prenez ce pinching match-up, Valdez quand il a rencontré les Yankees, a une défaite 1-0 avec un ERA à 6,75 et 15 strike-out en 3 apparences dans sa carrière face aux Yankees. Bon, on peut dire que c'est pas joli, mais si on prend du côté de New York avec Nestor Cortes, il a une victoire et une défaite avec un ERA qui est à 6,86, donc pratiquement pareil que son collègue. 21 strikeout en 7 apparences contre les Astros dans sa carrière. Voilà. Donc on peut dire que ce pitching match-up est assez équilibré donc, entre Houston et New York. Ça vaut le coup d'être vu, parce qu'on veut revoir Cortes au meilleur de sa forme.
Tout à fait.
Et moi perso, je veux voir Valdez encore plus décoller.
En plus, moi, ce que j'aime beaucoup chez Framber Valdez, c'est son calme. C'est que quand il est sur le monticule, il n'y a rien qui est laissé paraître.
Oui.
Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de grimace, il n'y a rien. Le mec fait son taf, il le fait généralement très bien, il est largement capable de résister à de la pression, il est largement capable de rester calme même face à un alignement très très puissant face à lui. Juan Soto, Aaron Judge, pour ne citer que ces deux-là, on a quand même des joueurs capables de frapper 40, 50 home runs dans une saison. Mais ça, Valdez, lui, que ce soit le petit nouveau qui vient de monter de Ligue mineure ou le recordman des home runs dans l'American League, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça donne, je trouve, une sérénité aussi pour le reste de l'équipe. Parce que déjà aussi, défensivement, on est quand même sur une équipe qui est des Astros, qui est aussi très bonne. Il y a quelques Gold Gloves, hein, je crois, hein, du côté des Astros.
Oui.
Donc tu couples une défense plutôt solide à un lanceur qui est calme, sûr de sa force, même si les stats que tu as données pourraient, si on les prend de manière brute, tu te dis le mec va prendre la sauce ce soir, demain soir.
Mm.
Et ça va être une orgie. Sauf qu'en fait, on a deux lanceurs qui sont largement capables d'être ultra performants sur la durée où ils vont lancer. C'est le premier match. Ils vont lancer 4, 5, peut-être 6 manches. Je pense que ce sera vraiment le grand maximum.
Ce sera tranquille au début, je pense.
Pour eux. Derrière, il y aura le bullpen qui devra faire le travail. Mais pendant ces manches-là, on risque d'avoir au final peu de points potentiellement dans cette rencontre, parce que justement, on a deux lanceurs qui sont potentiellement ultra dominants.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Là, pour en revenir au stats, c'est vrai que Valdez concède beaucoup plus de buts sur base que Cortes. Donc, on sait très bien que le baseball, c'est pas qu'une histoire de home run. C'est surtout, et on l'a tous vu dans le film Le Stratège, une question de coureur sur base. Plus on a coureur sur base, plus on peut marquer de points. Donc là, peut-être l'avantage est à New York, parce que Valdez conçoit beaucoup de buts sur base. Donc, on verra sur la puissance offensive des Yankees. Et il faut noter que voilà, Framber Valdez, malgré le calme olympien qu'il a, avec la pitch clock, il a forcément changé sa façon de
Bien
lancer. On
sûr.
l'a déjà dit l'année dernière, où avant la pitch clock, il avait un rituel de lancer qui était assez long. Et là, il l'a changé. Mais pour autant, il reste toujours aussi efficace, quoi. Voilà.
Les Yankees seront privés normalement de DJ LeMahieu
Oui, blessé.
qui est blessé de l'autre côté. Hein, on va juste reciter quelques joueurs, hein, juste comme ça, Jérémy Peña, Kyle Tucker, Yandy
Alvarez.
Diaz, Alex Bregman, José Altuve, Jordan Alvarez. Voilà. Je vais pas vous faire la même de l'autre côté parce que c'est tout aussi très bon. Anthony Volpi, Alex Verdugo, le nouveau venu, Giancarlo Stanton, Juan Soto, Anthony Rizzo, Aaron Judge, Osvaldo Cabrera. On est sur deux équipes clairement qui ont une puissance offensive incroyable et dont les attentes sont très très élevés, peut-être un petit peu plus côté Yankees, dû à l'absence de résultats depuis plusieurs saisons et l'absence des playoffs l'année dernière. Le deuxième match-up, là aussi, hein, on a deux prétendants au titre, très clairement. On a deux prétendants potentiels aussi pour le Cy Young, parce que les deux d'avant, ils peuvent largement y prétendre aussi. Ce sont les Braves. Face aux Phillies, là aussi, c'est un match, c'est une finale de conférence avant l'heure. C'est la bête noire des Braves que beaucoup voient gagner les World Series cette saison. Et sur le monticule, on aura le grand favori pour le Cy Young, Spencer Strider, et en face, pas non plus le dernier des peintres, Zach Wheeler.
Tout à fait. Ça, c'est un. Pour moi, c'est le premier match que je regarderai, je pense, 21h05, heure française, bien sûr.
20h05 même.
20h05, pardon. Je décale toujours d'une heure avec le.
20h05.
Ça vaut le coup de le regarder. Ça vaut le coup de le regarder vraiment parce que, oui, comme tu dis, c'est limite une finale avant l'heure. C'est la bête noire, voilà, des Braves. Ces deux prétendants au Cy Young. Bon, bref, il y a les superlatifs qu'on a sur ce match-up et c'est carrément au-dessus de tout. Donc là, petite statistique, encore une fois, aujourd'hui je m'occupe des stats. J'ai compilé sur. Strider a commencé en 2021. Donc du coup, j'ai pris Zach Wheeler, pareil, en année 2021. Donc de 2021 à 2023. Et sur la fiche générale que je peux vous donner, en gros, ils ont le même ERA qui tourne autour des 3. Un pourcentage de buts sur base qui est plus à l'avantage de Zach Wheeler. D'accord? Et malgré quand même la chasse au strikeout de Spencer Strider, eh ben c'est Zach Wheeler qui l'emporte avec 622 strikeouts contre 483. Voilà pour la première fiche, on va dire, statistique. En soi, Zach Wheeler est beaucoup plus, on va dire, offensif que Strider, parce qu'il a une WAR à 16 et Strider à 7,2. Donc déjà, sur ce match-là,
Non mais
hyper
juste,
large.
je reviens sur les 600 strikeouts de Wheeler en 3 ans.
Ouais.
Ça fait 200 par saison.
Oui.
Alors que c'est
Voilà.
vrai que Strider, par contre, n'a atteint les 200 que, il me semble, que l'année dernière.
Oui.
Pour la première
Même
fois.
il va chasser
Ben voilà, il est
une
les
partie consulaire.
200, les
Ouais.
300, il y a
300,
du,
c'est
ouais,
ça.
il y a du, il y a la chasse aux 300 qui est enclenchée
C'est
clairement
ça.
chez Strider cette année.
C'est ça. Et petit fait intéressant qu'on a vu sur les réseaux, si vous nous suivez, si vous suivez un peu les comptes baseball, Spencer Strider, dans sa carrière, il a une carte de 8 victoires, 8 victoires avec un ERA à 1,90 pour 72 strikeouts en 8 apparences contre les Phillies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte
Ouais, il est invaincu.
Voilà,
Il est
déjà il est
invaincu,
invaincu.
alors que c'est la bête noire. Alors, les Phillies, dès que on se souvient que les Phillies avaient éliminé les Braves en 2022. C'est vraiment leur bête noire absolue. Déjà, c'est un match-up de division. Mais là, de voir que Strider est invaincu face à cette équipe, c'est une anomalie, c'est pas possible.
Et surtout qu'ils en mettent en moyenne, c'est facile, hein, 72 divisé par 8 à Barance, ça fait 9 strikeouts par match. Un ERA de 1,90.
Donc, combien de manches jouées? Juste là, je dois faire le calcul parce que.
Donc là, il y a 8 apparences versus.
D'accord. Et combien de manches jouées?
Là, je pourrais pas te.
Tu l'as pas? Dommage.
Je pourrais pas.
Ouais, c'était juste pour le calculer le nombre de strikeouts par 9 manches.
Ah,
juste
oui.
Pour, effectivement. Juste pour rire. Juste pour rire. Pour avoir un truc à 15.
Non, je rechercherai la stat et on vous la mettra peut-être sur les réseaux, voilà, par rapport à ce pitching match-up. Mais il faut dire que aussi, alors là, dans l'ensemble de sa carrière, Zach Wheeler, c'est une carte de 12 victoires, 7 défaites, avec un ERA à 3,18 pour 173 strikeouts en 27 apparences.
Ouais, ce qui n'est pas non plus
ce qui est pas dégueulasse,
mauvais non plus, hein, surtout quand on voit l'alignement des,
tout à fait.
Des Braves.
Des Braves. C'est franchement le top 1 du match que vous devez voir.
Ah oui.
Demain soir.
Ouais.
À part votre équipe de cœur, bien
oui,
sûr.
Oui, voilà.
Après, franchement.
Et encore, tu vois, je me place en tant que fan. J'ai plus envie de regarder Braves Phillies que Yankees Astros.
Et moi donc.
Oui, bon, oui, non, alors toi, on n'en parle même pas. Hein. De toute façon, le tien, il est à 3h30 du mat.
De toute façon.
Toi, t'es tranquille. Non, vraiment, si vous découvrez, parce que vous êtes nombreux, on a vu pas mal de messages passer, cette année, c'est ma première saison MLB, j'ai vraiment hâte, etc. S'il y a un match que vous devez regarder, alors c'est pas le Free Game of the Day.
Ouais.
C'est pas le Free Game of the Day, d'ailleurs, c'est lequel? Ils le mettent plus sur l'application.
Ils sont pas tous gratuits les premiers jours de l'Opening Day? C'est une question.
Ils l'ont pas encore mis sur l'appli.
Ah.
Non, ils l'ont pas mis encore sur l'appli, les petits coquins. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Alors peut-être qu'il me semble que pour l'Opening Day, ouais, c'est gratuit. Tous les matchs sont gratuits. Donc, en plus, vous avez même pas besoin de créer de compte payant. Vous avez juste à vous inscrire sur MLB.tv. MLB.tv. Pas pourquoi je le fais en anglais. C'est gratuit et vous avez au moins un match quasiment par jour qui est gratuit. Celui-ci, si vous commencez le baseball, regardez ce match-là. Parce que, un, vous avez deux lanceurs exceptionnels. Deux, vous avez deux équipes qui peuvent prétendre au titre en fin de saison. Et ouais, j'ai même pas de troisième argument parce que c'est juste le match-up absolu de cette première journée. On est quand même sur une affiche de rêve dès le début. Alors c'est une série, hein, c'est le premier match. Il y en aura d'autres qui vont suivre les jours qui suivent. Mais celui-ci, vraiment, c'est le must-see de cette la série de manière générale. De toute façon, c'est le must-see de cette première semaine de saison 2024 en MLB. Que rajouter d'autre sur ce match-là, hormis que dans l'alignement derrière, on a une équipe, on a deux équipes qui n'ont pas trop bougé quand même. On va retrouver Ronald Acuña Jr. qui sort d'une saison historique, hein, quand même. on a une équipe des Phillies qui a échoué de peu une nouvelle fois pour aller jusqu'en World Series, donc il y a une véritable continuité. La petite chose, je pense aussi à regarder un petit peu, c'est le retour de Bryce Harper en première base. C'est peut-être ça qui peut être intéressant, de voir comment Bryce Harper se réacclimate à cette position là. Lui qui avait été blessé, qui avait été frappeur désigné, qui du coup revient quand même sur le terrain en défense en première base. Jusqu'à présent, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu pendant le spring training, il était plutôt content de revenir en première base.
Retour convaincant, effectivement.
Voilà, retour plutôt convaincant. Donc, c'est plutôt intéressant. Trea Turner, shortstop. Hein, on va voir s'il continue de glisser et de slider comme il a l'habitude de faire.
Avec classe.
Avec classe, toujours. Donc, non, vraiment, vraiment deux match-up vraiment très intéressants. Est-ce que ça donnera une indication sur le reste de la saison ?
Non.
Sans doute pas du tout. Mais voilà, les victoires prises en fin mars et début avril ne sont plus à prendre au mois de septembre. Et dans une division où toutes les places vont valoir cher et où, pour la wild card, ça va valoir cher, et ben, engranger des victoires aujourd'hui face à son adversaire de division, ça peut être une bonne idée, à mon avis. Ça peut être une très bonne idée. En parlant de rival de division, c'est le troisième match-up dont on va vous parler. C'est les Giants face aux Padres. Alors, les Padres qui ont déjà un bilan de 1-1 en tête de la MLB, qui du coup reviennent des Seoul Series avec une victoire et une défaite la semaine dernière face aux Dodgers, avec beaucoup d'interrogations. On vous renvoie au podcast qu'on a enregistré la semaine dernière justement sur ces Seoul Series. On va pas tout refaire parce que aujourd'hui ils affrontent les Giants, l'équipe qui moi m'intrigue énormément.
C'est ta surprise.
C'est ma surprise. Ouais. Si vous avez vu la petite vidéo qu'on a faite, que j'ai faite là-dessus avec les pronos un peu de la rédac, pour moi ça peut être la vraie surprise parce qu'il y a eu un recrutement plutôt intéressant, intriguant. Sur le monticule, bah, ils ont quand même fait venir Blake Snell. Alors, c'est pas Blake Snell. Ça aurait été très drôle, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Ça aurait été très drôle de voir Blake Snell aujourd'hui, demain sur le monticule. Mais non, ce sera Logan Webb. Alors, c'est tout aussi bon, hein, vraiment. Et il affrontera Yu Darvish.
Yu Darvish, qu'on a vu au Seoul Series face à Tyler Glasnow. La sortie qu'il a faite, donc 3 manches, .2, avec 3 strikeouts, mais 3 buts sur base. Voilà, il n'a pas été... Bon, il finit quand même avec une ERA à 0, mais bon, ils ont vite sorti quand même sur ce match-là, qu'ils ont perdu d'ailleurs, 5-2,
oui,
il me semble, voilà, face aux Dodgers. Voilà. Mais on a Yu Darvish qui est quand même assez calibré face à Logan Webb qui de saison en saison en fait évolue et comment dire, la rotation des Giants est de plus en plus intéressante saison par saison. Alors à chaque fois on était sur la déception d'année en année avec eux, là avec l'ajout de Blake Snell on se dit peut-être que ça va être très intéressant de regarder des matchs des Giants, même s'ils sont sur la côte ouest, donc des matchs forcément très tard dans la nuit ou très tôt le matin pour ceux qui se lèvent tôt. Là, au niveau de la comparaison, pareil, j'aime bien être sur un pied d'égalité. Donc, en fait, Logan Webb commence en 2019. Donc, j'ai pris Yu Darvish, pareil, de 2019 à 2023. Et là, on a, pareil, je vais vous dire, franchement, là, quand je regarde les chiffres, ils ont sensiblement la même carte, quoi. Voilà, ils ont un ERA qui tourne autour de 3,40, 3,71 pour Yu Darvish. Yu Darvish qui a quand même une différence de 250 strikeouts de plus que Logan Webb, et donc pour vous dire, 859 pour Darvish et 598 pour Logan Webb. Voilà pour ça. Logan Webb qui quand même a un record donc sur la carte de 2 victoires de défaite avec une ERA à 2,50 face aux Padres, donc en 10 match et il a fait 50 strikeouts. Voilà. Sur la carrière. Après Yu Darvish, on est sur une carte un peu plus négative, c'est-à-dire que 2 victoires pour 3 défaites, un ERA à 6,23, 71 strikeouts en 11 apparences pour Yu Darvish face aux Giants. Donc, là, moi, personnellement, sur mon analyse, avantage aux Giants. Voilà.
Avantage aux Giants. Alors, ça se joue à San Diego, au Petco Park. Avantage aux Giants. Alors, sur le pitching match-up, en tout cas, je pense que tu as raison, puisque on a déjà vu Yu Darvish, donc on a vu un petit peu ce qu'il en était. On a vu que c'était pas encore le Darvish qu'on avait connu, notamment l'année dernière ou les années précédentes. Pour les Giants, du coup, c'est vraiment le début. Après, sur l'alignement, si on parle d'alignement, je pense que les Padres, d'avoir eu deux matchs déjà pour se mettre en jambe dans des conditions réelles, entre guillemets, ont peut-être un petit avantage là-dessus. On a vu qu'ils étaient capables de profiter des erreurs éventuelles des lanceurs. Je ne suis pas en train de dire que Logan Webb va se faire... Enfin, tout est possible. Hein. Le deuxième match face aux Dodgers, on n'aurait jamais misé un copec sur le fait que Yamamoto se fasse ouvrir en deux dès la première manche. Donc, tout est possible, bien entendu. Sur le papier, Logan Webb est quand même celui qui est capable, qui est en mesure de freiner Manny Machado, qui est en mesure de freiner Bogarts, Tatis, Ha-Seong Kim aussi. On a quand même un alignement qui est très puissant offensivement. Ils l'ont montré, ils ont mis 15 points aux Dodgers. Et vraiment, ils ont pilonné à quasiment toutes les manches. À quasiment toutes les manches, il y a eu du coup sûr de réaliser. On l'a dit, il n'y a pas que les home runs dans la vie, bien entendu. S'ils arrivent à placer des coureurs sur base, et surtout des coureurs en position de marquer, et que derrière, tu as un Bogarts qui se pointe, un Machado ou un Tatis, tu peux être sûr qu'il y a de grandes chances que le point rentre derrière. Est-ce que la défense aujourd'hui des Giants va être en mesure de contrer ça aussi ? Y a les petits nouveaux qui arrivent. À voir. Est-ce que un Chapman en troisième base va être déjà bien en jambes et déjà bien rodé avec ses coéquipiers. À voir un petit peu comment ça va se mettre en place. Mais je le répète, pour moi, c'est vraiment une équipe qui est intrigante parce que elle est passée, ça fait 2 ans qu'elle est citée sur tous les gros agents libres potentiels qui sortent. Et ils n'en ont pas chopé un seul. Le seul qu'ils ont réussi à avoir, c'est Blake Snell, ce qui est tout à fait honorable. Je pense que ça leur fait du bien, compte tenu aussi des blessures qu'ils ont dans leur rotation.
Oui.
Ils sont passés à côté d'Otani, ils sont passés à côté d'Aaron Judge. Donc, dans l'esprit et la, tu vois, un petit peu le momentum potentiel qu'ils auraient pu créé grâce à ça, ils sortent d'une saison 2023, ça a été long, compliqué, il y a eu des attentes qui étaient placées assez hautes après des bonnes saisons, après des saisons où ils ont quand même remporté la National League, hein. Ils ont dit aux Dodgers, non, ce coup-ci c'est pour nous, et derrière ça n'a pas concrétisé parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu des joueurs potentiels qui pouvaient arriver, finalement ils ne sont pas arrivés, il y a eu des joueurs qui sont partis. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode, bon, allez, on a fait un peu le ménage, on a fait venir 2-3 joueurs, on a fait venir un bon ace. Il y a peut-être les conditions qui sont réunies. Si demain soir, ils battent les Padres et que sur la série, ils les battent aussi, peut-être que là, le mindset sera peut-être changé aussi du côté des Giants.
Oui, c'est fort probable. C'est sûr que après cette analyse-là, on peut dire que tu as forcément peut-être les bons arguments pour ces équipes-là. Donc à voir vraiment. Ça va être intéressant quand même de voir le combat qu'ils peuvent se livrer. Parce qu'on attend quand même forcément un peu des Giants hein, d'année en année. Certes, ils n'ont pas forcément l'équipe qui peut rivaliser, mais ils ont peut-être quelques atouts dans leur poche pour prétendre à un petit accrochage, on va dire.
Ouais. Absolument. Voilà. Puis j'espère, parce que du coup, ça me donnerait raison pour le fait que ce soit une surprise, donc je suis à fond derrière les Giants cette année, pour éviter de me prendre, d'avoir la honte.
C'est pas le perdre.
Le dernier match-up, c'est un peu le match-up bonus. Alors, celui-ci, il est à minuit et demi. Donc, bon, si vous êtes courageux, allez-y. Parce que là aussi, c'est. Alors, il y a une des deux équipes, ça peut être une jolie surprise, ou plutôt peut-être, je ne sais pas si surprise, ce serait vraiment le mot, mais peut-être une confirmation des bonnes choses qu'on a vues l'année dernière. Et puis, bah, en fait, comment ne pas parler des champions en titre pour l'Opening Day? Franchement, ce serait quand même assez malvenu de notre part. Et bah, c'est le match entre les Cubs et les Rangers avec Steele et Nathan Eovaldi sur le monticule. Alors, brut, c'est pas forcément le match-up le plus incroyable. Après, bon, on vous épargne Bieber et Wood entre les Guardians et les Athletics. Mais
Ah,
on
Alex
a,
Wood,
c'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal aussi. Mais comme j'ai mis le mot Athletics dedans, bon, voilà, c'est bon, voilà.
oui, c'est
Petite
bon.
pique envoyée, mais c'est toujours fait avec amour aux fans des A's. En plus, c'est les mêmes couleurs que les Buccaneers de La Rochelle, donc ce serait assez malvenu de ma part. Donc, les Cubs face aux Rangers, donc les champions en titre qui vont débuter leur quête du back-to-back. J'ai cette équipe-là, et c'est assez ouf de dire ça pour un champion en titre, elle est complètement sous les radars. Parce qu'en fait, ils ont perdu Montgomery. Et on est tellement passé à autre chose parce qu'il y a les Dodgers que tout le monde voit au sommet, enfin que tout le monde voit quand même beaucoup en déception, que en fait on en a, mais on les a mis mais complètement de côté, en mode de toute façon ils feront pas le back-to-back.
Oui, c'est vrai.
Attention, attention. Et tu vas nous le dire pour ce match-up là, Eovaldi, c'est pas non plus le dernier des peintres.
Ah ben non, Nathan Eovaldi, moi personnellement, c'était un lanceur que j'ai connu quand j'ai commencé à suivre les Red Sox, qui était déjà pour moi la référence au niveau des partants, avec Chris Sale, hein, quand il n'était pas blessé, bien sûr. Mais Ovaldi, c'est un monstre de, comment dire, de régularité. Il arrive à enchaîner, enfin, il arrive à enchaîner. Il a fait quelques complete games quand même la saison dernière, qui, soit dit en passant, et on l'a déjà dit lors de notre dernier podcast, de plus en plus rare de faire des matchs complets au niveau des lanceurs partants. Donc là, Ovaldi, je ne dis pas qu'il va en faire un demain, hein, c'est sûr, hein, mais il peut être capable de rempiler pour la saison 2024. Moi, j'aime bien le joueur parce qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a un très bon arsenal. Et quand on voit ben, face aux Cubs et justement à Justin Steele, donc Justin Steele qui est très jeune, hein, qui a commencé en 2021. Donc, si on prend les stats de 2021 à 2023, c'est sûr que oui, l'avantage est à Eovaldi. Mais Steele, comme on l'a découvert à Londres, enfin moi je l'ai découvert sur Londres l'année dernière, très 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 intéressant comme joueur à suivre, qui est forcément le lanceur numéro 1 cette saison. Donc il n'a pas de très bonnes stats, on va dire, face aux Rangers, hein. Donc il n'a que 6 manches lancées, là, de ce que je vois sur sa carrière. Voilà, c'est très dur de faire une comparaison statistique sur ça. Et Ovaldi, pareil, il a une carte de deux défaites avec un ERA à 3,72 et 16 strikeouts en trois apparences face aux Cubs dans sa carrière. Voilà, donc sur
Ouais,
ça,
l'échantillon est pas
l'échantillon n'est pas vraiment. Mais par contre, voilà, on l'a mis en top 4 pour moi parce que Steele, il perce. Il va être performant. Et Eovaldi, j'ai envie de voir, moi, s'il continue sur la lancée de 2023. Voilà. Et ça, c'est intéressant à voir. Et c'est surtout que, comme tu as dit, les Dodgers ont les projecteurs braqués sur eux. Donc, Bruce Bochy peut se dire, OK, on va peut-être évoluer tranquillement, mais sûrement. Les Dodgers, ils ont les projecteurs sur eux. C'est bien. Nous, on peut avancer. On pourra avancer. Donc, à voir.
En effet, ils sont. En plus, ces deux équipes, donc les Rangers forcément champions en titre, donc au final quand même attendu. On attend de voir le champion, de voir un petit peu s'ils seront en mesure de réaliser le back-to-back. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de back-to-back. Et face à eux, ils ont des Cubs qui naviguent dans une division relativement faible, mais dont on les projette quand même assez, assez haut, avec une équipe où ils ont fait revenir Bellinger, ils ont fait venir Shota Imanaga, que j'ai vu à l'œuvre hier, et qui a des stats sur ce spring training qui sont quand même assez... assez affolante, hein, avec un pourcentage de retrait au bâton qui est juste monumental. Ça ne tiendra pas, bien entendu, c'est le spring training, machin. Mais quand même, les premiers éléments montrent quand même quelqu'un qui est peut-être appelé à dominer. Les Cubs, moi, je les mets au même rang que les Giants en termes de potentielle surprise cette année. Il y a de grandes chances qu'ils remportent leur division. Si tout se passe bien, a priori, la division, elle est pour eux. En play-off, c'est peut-être un poil à gratter. Je ne les vois pas aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, il va manquer peut-être quelque chose. L'expérience, hein, on parlait de Steele qui est à sa quatrième saison. C'est peut-être là où, justement, dans les moments où ça va compter... septembre, octobre, etc. C'est peut-être là où ça fera peut-être un peu défaut. Mais en attendant, ces Cubs-là, je pense qu'il faut quand même les prendre au sérieux. Il ne faut pas les laisser pour compte. Et ni les Rangers. C'est vrai que quand instinctivement vous demandez... J'ai vu très peu... J'ai demandé sur Twitter. J'ai demandé les pronostics un petit peu des gens. J'en ai quasiment pas vu un seul qui mettait les Rangers vainqueurs. Ouais. On a les Orioles, les Braves, les Phillies. On a les Dodgers, on a les Yankees. Mais à aucun moment je vois des gens mettre ouais les Rangers pour le back-to-back. J'y crois. Et pourtant. Faudrait peut-être bien ne pas dormir sur eux, comme on dit avec une traduction bien littérale de sleep on them, parce que l'effectif au final reste quand même d'une qualité incroyable, avec un entraîneur qui sait, qui a la recette et qui est capable de faire gagner une équipe. Et ouais. ça compte aussi. Donc, à voir aussi. Alors, si vous voulez pas le regarder à minuit et demi, évidemment, vous le regardez en replay le lendemain. Mais ça fera partie des séries qui seront intéressantes à regarder pour cette opening day. C'est le début d'un marathon. C'est ce que tu t'entêtes à dire. La saison, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On n'est pas sur une saison de NFL à 17 matchs. On est sur une saison à 162 matchs. Bien sûr que les premiers matchs sont importants, mais ceux de fin de saison le sont tout autant. Et là, les équipes se lancent dans un marathon, je pense, inédit dans le sport de haut niveau. Et ça nous promet une saison 2024. Il y a des nouvelles règles, il y a plein de nouvelles choses qui nous promettent, je pense, une saison... de très 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 bonne facture de nouveau, avec des matchs intéressants, des équipes qui commencent aussi à élever leur niveau. On sent qu'il y a l'émergence aussi de certaines équipes. Si on fait un bilan un peu global, il y a l'émergence de certaines équipes couplée à des favoris qui sont toujours globalement les mêmes d'une saison sur l'autre, des équipes dont on attend la confirmation. Donc il y a tout un mélange où tu te dis il y a peut-être 25 équipes où tu sais que il peut y avoir quelque chose qui se dégage de ces 25 équipes-là. Je vous laisse libre de trouver les 5 dont on attend absolument rien. Mais je pense qu'on a à peu près tous les mêmes en tête.
Les mêmes noms, ouais, je pense que j'ai les
mêmes noms en tête. Mais pour le reste, j'ai vraiment l'impression que, et les dernières saisons nous l'ont montré aussi, on a toujours des équipes qui sortent du lot. Si on reprend depuis quasiment 2019, on a les Nationals en 2019 qui gagnent. Derrière, on a toujours eu des équipes qui se sont hissées au moins aux World Series alors qu'on ne les attendait pas forcément.
Les Dodgers s'y gagnent en 2020, tu veux dire?
Les Dodgers 2020, les D-backs l'année dernière. Qui seront les D-backs de cette année? Qui seront les D-backs de 2023? Qui seront les Rangers qui se qualifient au dernier match alors que, en fait, s'ils perdaient, ils pouvaient ne pas du tout faire les séries et au final, ils vont au bout. Qui seront les super ultra favoris qui vont faire une saison à 100 victoires et qui seront éliminés dès le premier tour? La réponse, elle n'est pas le 28 mars, elle est début octobre. Et avec Jérémy, on va vous faire vivre tout ça avec Jérémy, avec Chris, avec Nicolas.
Nico,
Vous allez vivre ça tout au long de l'année, que ce soit sur le site, l'application, mais aussi sur les podcasts. Vous allez vivre ça avec nous, en notre compagnie. Et si vous découvrez le baseball, surtout, on vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions. Franchement, on y répond avec grand, grand, grand plaisir. On est là pour ça. Avec toute l'équipe MLB de TFA. Jérémy, eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer notre podcast spécial Opening Day. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un premier bilan. Non, surtout pas. C'est pas un premier bilan. On parlera des séries qui auront déjà été,
Voilà.
qui seront faites, et on se projettera sur celles à venir. Voilà, ce qui nous a un petit peu, peut-être, ce qui nous a un petit peu, ce qu'on a aimé, ce qu'on a un petit peu moins aimé. Ça peut être tout ça. Et puis, en fonction de l'actualité, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'on découvrira que Shohei Ohtani a placé des paris illégaux en Californie et qu'il est forfait pour l'intégralité de la saison. Qui sait? On ne sait pas. Et on verra tout ça la semaine prochaine. En tout cas, je te remercie, Jérémy, d'avoir été avec moi aujourd'hui sur ce
Un plaisir.
podcast.
C'était un
Et
plaisir.
À vous tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles et mettez un petit commentaire. C'est comme ça que le podcast pourra grandir et être mieux référencé sur toutes ces plateformes d'écoute. À la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite un excellent opening day. Et comme on dit, play ball.
À bientôt.